dans la grande table des idées aujourd'hui, préparée par Marceau Vassy et Marie-Ozana Chauvin. Nous sommes en compagnie de l'anthropologue Jean-Loïc Lequellec qui publie « Avons-nous le déluge ?» aux éditions du Détour. Un retour sur le mythe et sur ce qu'il nous raconte de l'origine des êtres et du monde. Le mythe que l'Occident autocentré a longtemps réduit à ses racines antiques européennes, alors même qu'il existe partout où il y a des hommes. Jean-Loïc Lequellec propose de nous faire découvrir à la fois le rôle du mythe et l'amplitude des récits qu'il recouvre. Voici une historiette de la communauté des Birors en Inde. Dans les temps anciens, le ciel était si bas qu'il touchait la tête des humains. Un jour, alors qu'une femme était en train de piler du riz, son pilon heurta le ciel accidentellement avec une grande force. Alors le ciel s'est reculé et depuis lors, il est resté en suspension, là-haut dans les airs. Bonjour Jean-Loïc Lequellec.
Bonjour.
Alors on commence par ce mythe, cette historiette. D'ailleurs, est-ce vraiment un mythe, cette histoire par laquelle vous commencez ?
Ah oui, tout à fait. Un mythe, par définition, c'est une histoire, justement. C'est un récit. On raconte quelque chose, on raconte des événements. Et ces événements ont ceci de particulier, qu'ils expliquent le monde actuel, l'état actuel du monde, en se référant à un événement passé que raconte le mythe. Et en gros, les mythes sont un peu tous du type autrefois, le monde était de telle façon. Il s'est passé quelque chose que je vais vous raconter, c'est ça le mythe. Et depuis lors, le monde est comme nous le connaissons. Et c'est une façon d'expliquer l'état présent du monde, de le justifier, et notamment de répondre à des tas de questions qui sont souvent les questions que se posent les enfants, qui sont des questions les plus simples et les plus compliquées à la fois, qui sont pourquoi le monde existe, pourquoi il y a des humains.
Questions métaphysiques.
Oui, de toutes les grandes questions, qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Toutes ces questions-là sont des questions auxquelles, dans tous les peuples du monde qu'on a pu connaître, il y a des gens qui répondent en racontant une histoire.
Alors Jean-Louis Lequellec, l'une des questions vastes à laquelle on va répondre en détail dans cette émission, c'est à la fois la diversité des mythes et la généralisation des mythes à travers le monde, et en même temps l'universalité du mythe, c'est-à-dire à la fois extrêmement typé en termes d'imagerie et culturaux dépendants, et en même temps universel.
Alors, universel dans la mesure où, si on entend par là, le fait que dans aucune culture du monde, on n'a jamais rencontré une culture dans laquelle il n'y avait pas de mythe. Donc c'est bien universel, propre à l'humain, partout où il y a des humains et des gens qui causent, eh bien, il va y avoir quelqu'un qui, à un moment donné, va raconter un mythe ou a raconté un mythe.
Parce que le mythe est aussi langage, ça vous en expliquez.
Forcément, c'est un récit, donc il faut absolument avoir le langage. Donc ce qui, par rapport, si on veut remonter très loin dans le temps, par rapport à la préhistoire, évidemment, il y a une association entre l'émergence du langage et l'émergence des mythes. Il n'est pas possible d'avoir des mythes sans langage. C'est aussi la raison pour laquelle une image ne peut pas être un mythe. Voilà, une photo, un portrait, n'importe quelle image, un symbole, ça n'est pas un mythe. Il faut pour ça qu'il y ait un récit. L'image peut être un support, peut accompagner, mais elle-même n'est pas un mythe. Donc, c'est des récits. Et dans toutes les cultures du monde, on en connaît. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est universel. Ensuite, quand on les regarde un par un, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une grande variété. Il y en a partout, mais ils sont différents. Il y en a de tous les types. Mais si on prend les mythes qui répondent à telle ou telle interrogation, mettons l'origine de la mort ou l'origine des humains, pourquoi il y a des humains sur Terre, il y aurait très bien pu ne pas y en avoir. Comment se fait-il ? On raconte une histoire. Eh bien, l'histoire qui est racontée n'est pas la même partout. Et donc, le fait de raconter l'histoire, c'est universel, mais l'histoire elle-même est universelle. Et on peut dire, en gros, que parmi toutes ces histoires, parmi tous les mythes qu'on a pu répertorier, il n'y en a pas d'universel.
Alors, on va revenir sur ces questions des typologies, mais bien avant, revenons à ces histoires de définition, et on se rend compte qu'avant même de définir le mythe et la mythologie, il va falloir, justement, d'abord revenir aux définitions mêmes de l'anthropologie et de l'ethnologie. Vous commencez par là, Jean-Loïc Lequellec, en faisant référence, bien sûr, à Claude Lévi-Strauss et à votre maître. Alors pourquoi d'abord revenir à cette dissociation ?
Alors, tout simplement parce que, de fait, il se trouve que les mythologues, les personnes qui se sont intéressées aux mythes, qui ont étudié les mythes, qui ont pris les mythes comme un objet de science, d'étude, de savoir, étaient des anthropologues. Ce qu'on appelle des anthropologues.
C'est pas une discipline à part complètement.
Qu'est-ce que c'est qu'un anthropologue, du coup, évidemment c'est, alors, au sens le plus large, c'est quelqu'un qui étudie les humains. Sous toutes leurs formes depuis qu'il y en a, quoi. Voilà, partout dans le monde, dans leur infinie diversité et en même temps dans leur particularité, en se posant des questions du type qu'y a-t-il de commun entre tous les humains ? Y a-t-il quelque chose de commun entre tous les humains ? C'est une question légitime. Ou y a-t-il des choses qui ne sont pas communes entre tous, voilà. Et en gros, on peut dire que souvent, on fait une distinction entre ethnographe, ethnologue, anthropologue. L'ethnographe, c'est, disons, celui qui ou celle qui part loin de chez lui, loin de chez elle, dans une autre culture, souvent très très loin, et qui va s'immerger dans un autre monde, apprendre une nouvelle langue, et à tout apprendre, comme un petit enfant. Il faut tout apprendre, comment on dit bonjour, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est malade, enfin, il faut absolument tout apprendre. Et ça prend beaucoup de temps. Et une fois que la personne qui se livre à cette activité pense avoir fait à peu près le tour, on ne l'a jamais fait, mais disons avoir à peu près vu de ce qu'il en est, elle rentre chez lui, dans sa propre culture, et là, elle expose aux gens ce qui a pu être compris de ce qu'elle a vu. Alors c'est souvent, ça prend la forme d'une monographie, d'un livre, d'un film, éventuellement. Ça c'est l'ethnographe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui note. Puis l'ethnologue. L'ethnologue, c'est celui qui fait un peu la même chose, mais avec plusieurs cultures différentes, et qui va commencer à faire des comparaisons, et dire, oui, certes, on a observé ça dans tel endroit, chez telle culture, mais qu'en est-il chez les voisins? Et les voisins des voisins, et dans toute la zone, là, qu'en est-il?
Voilà. Et c'est lui qui nous est utile pour cette question-là.
Alors voilà. Et l'anthropologue, c'est celui qui... Alors, encore un... Alors, c'est des distinctions qui sont un petit peu artificielles, parce que c'est souvent la même personne, hein, évidemment, mais ça, disons, c'est un peu classique comme distinction. L'anthropologue, c'est celui qui fait ça pour l'humanité. Alors, évidemment, on peut pas faire des enquêtes dans tous les peuples du monde, et donc là, on s'appuie sur les bibliothèques, puisque ça fait plusieurs générations maintenant que des gens recueillent des mythes, recueillent des traditions, recueillent des légendes, recueillent des rites et des savoir-faire. Et là, on a à la disposition une énorme documentation qu'on peut étudier sans se déplacer, en restant chez soi, ce qu'on appelle l'anthropologie en fauteuil.
Alors écoutez, le maître des anthropologues, Claude Lévi-Strauss, poursuit sa définition à lui du mythe à partir de laquelle vous faites votre récit à vous.
Eh bien, c'est une histoire qui cherche à rendre compte à la fois de l'origine des choses, des êtres et du monde, du présent et de l'avenir. Un mythe, c'est par exemple une histoire qui essayera d'expliquer à la fois pourquoi il se trouve que le soleil est à bonne distance de la Terre, alors qu'il pourrait être beaucoup plus loin et ce serait la nuit éternelle, ou beaucoup plus près et le monde entrerait en conflagration. Et pourquoi un homme doit aller chercher son épouse à bonne distance, pas trop loin, parce qu'alors ça pourrait être une étrangère et une ennemie et une sorcière, pas trop près, parce qu'il se rendrait coupable du péché d'inceste. Et pourquoi également les saisons et les jours ne se succèdent pas à toute vitesse, mais selon un rythme régulier. Enfin, pourquoi il existe une certaine bonne mesure, à la fois dans l'ordre cosmologique, dans l'ordre météorologique, dans l'ordre saisonnier et dans l'ordre social.
Jean-Luc Lequellec, on voit que, à travers la définition de Claude Lévi-Strauss, c'est à la fois la question de la structure du mythe et en même temps sa fonction, le récit qu'il vient livrer. Et c'est pas n'importe quelle question qui traverse l'humanité. Hein. C'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent, qui sont autour finalement de l'existence du monde, des êtres qui l'habitent et la capacité de perpétuer cet état de fait.
Oui, ce sont toujours des histoires qui expliquent le monde d'une certaine manière, qui justifient son état présent. Le monde est rempli de phénomènes, d'êtres qui paraissent incompréhensibles ou difficiles à expliquer, ou il y a des choses qui nous paraissent absurdes, et c'est difficile à supporter. Et donc, on raconte une histoire qui conjoint différents phénomènes, comme il vient très bien de le dire, hein, et qui on va rendre compréhensible, on va rendre finalement acceptable des choses qui, sans cette histoire, seraient difficiles à avaler, comme par exemple la mort. La mort, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à admettre que nous allons mourir, mais il y a des histoires qui racontent, ah oui, certes, nous mourrons, mais ça n'a pas toujours été le cas. Jadis, nous ne mourrions pas, nous étions éternels, ou bien on mourait, certes, mais c'était pas si grave, parce que ça durait 3 jours et ensuite on revenait à la vie. Voilà, il y avait une situation antérieure qui était très différente de la situation présente. Et puis, il s'est passé quelque chose. Alors, c'est ça qu'intervient le mythe, il y a une rupture, en fait, à chaque fois. Quelque chose survient,
qui est toujours la quête de sens, hein. Oui. C'est une explication. Je pense au mythe du début de cette émission-là. Pourquoi est-ce que le ciel est au-dessus de nos têtes? Finalement, la volonté, c'est une volonté explicative.
Oui, alors c'est explicative, oui, Mais c'est surtout le fait d'ajouter du sens. C'est pas une explication au sens de l'explication scientifique. C'est pas une explication où on va faire une démonstration.
C'est une représentation.
C'est un dévoilement. Autant la science procède par démonstration, on collecte des faits et puis à partir de là, on va essayer d'échafauder une théorie pour justifier de tout ça qui autrement paraîtrait incohérent. Le mythe procède différemment. Les faits pour un mythe servent plutôt à l'illustrer qu'à démontrer quelque chose. Et le mythe donne du sens aux faits. Autrement, sans le mythe, ces faits seraient incompréhensibles. Ou même scandaleux.
D'où la dimension de la croyance.
Alors, la dimension de la croyance est très importante, bien sûr. C'est une dimension un petit peu compliquée parce que, déjà dans notre vocabulaire, nous, quand nous disons mythe ou mythique, nous sous-entendons dans le langage courant hein, qu'on parle de quelque chose qui n'est pas crédible. Hein. Quand on dit « oui, tout ça, c'est un mythe, bon, mais c'est des mythes », on sous-entend que c'est des histoires auxquelles il ne faut pas croire quand on emploie le terme de cette manière-là. Or, dans toutes les cultures du monde, au contraire, le mythe est raconté pour dire le vrai, pour expliquer pourquoi le monde il est comme il est, pour donner les raisons d'être du monde, pour ajouter du sens au monde, et donc il n'y a pas plus vrai que le mythe pour les gens qui le racontent dans les cultures où il se raconte et où il est tenu pour dire le vrai. Et donc là, il y a une contradiction qui touche à la question de la croyance.
Ce qui fait et que de l'adhésion, au final.
Et de l'adhésion.
L'adhésion culturelle à ce mythe.
Mais du coup, ce qui est frappant quand on parle de la croyance, c'est que la croyance ne va pas sans l'incroyance. C'est un couple. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et on peut dire que ce que nous appelons mythe, depuis le début de cette discussion, est-ce que Claude Lévi-Strauss appelle mythe et les mythologues appellent mythe, ce sont les vérités des autres, qui pour nous sont fausses.
Ah bah vous reprenez d'ailleurs la définition de l'anthropologue Jean Pouillon, hein. Vous dites l'ethnologue est l'incroyant qui croit que le croyant croit.
C'est ça, je ne saurais mieux dire, effectivement. Pour reconnaître le mythe, parce que la question se pose de comment fait-on pour reconnaître un mythe, il faut une distance. Nos propres certitudes ne peuvent pas être considérées par nous-mêmes comme appartenant au mythe parce que ce sont des certitudes et elles disent la vérité pour nous. Par contre, les certitudes des voisins, que ce soit mon voisin de table ou que ce soit un autre peuple, là c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fréquent de les reconnaître ou de les déclarer fausses et de dire non mais ça c'est des mythes, on voit bien que c'est des mythes. Et la condition de reconnaissance du mythe, c'est une distance. C'est la distance
culturelle,
géographique ou temporelle. On reconnaît facilement les mythes des Grecs anciens, de l'Égypte ancienne, de tous les mythes qui nous ont été légués par l'Antiquité, par les textes antiques. On les reconnaît facilement comme mythes sans même discussion. Tout le monde les reconnaît comme mythes. Parce que c'est simplement des histoires auxquelles on ne croit pas.
Parce qu'ils ont aussi fait des petits.
Alors ils continuent d'ailleurs. Hein.
C'est aussi pour ça qu'on les reconnaît. Vous partez du déluge. C'est d'ailleurs le titre. Vous faisiez allusion tout à l'heure à l'événement qui fait rupture. Alors le déluge est un bon exemple. Peut-être vous pouvez nous le développer, Jean-Loïc Lequelec.
C'est un excellent exemple, effectivement, parce que ce qu'on appelle le déluge, parce qu'il y en a des centaines de déluges en réalité. Le risque quand on dit le déluge, c'est nous pensons forcément au déluge biblique, forcément, et c'est passé dans le langage courant. Voilà, nous parlons d'un déluge d'injures, un déluge de paroles. Bon, tout ça, c'est des allusions à la Bible. Mais des déluges, on en a recueilli dans de très nombreux endroits du monde et des récits qui n'ont rien à voir avec le récit biblique. Parfois, c'est l'influence des missionnaires, mais pas toujours. Et qu'est-ce que c'est qu'une histoire de déluge, au fond ? Nous, on pense pluie immédiatement. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit parce que la pluie diluvienne, c'est aussi passé dans le vocabulaire. Or, c'est pas exactement ça, une histoire de déluge. Une histoire de déluge, c'est l'histoire d'une création. Une première création par une divinité, peu importe, un ou plusieurs dieux, c'est pas très important, mais une première création qui ne se comporte pas comme vraiment attendue ou qui a un comportement un peu pénible, fait trop de bruit, se révolte, se prend elle-même pour des dieux quand il s'agit des premiers humains, se multiplie beaucoup trop, ce qui fait que ça va être trop lourd et la terre va s'effondrer. Ça va pas comme prévu. Et donc, ça va tellement pas bien, en fait, que la divinité créatrice décide de commencer.
Donc en réalité, c'est un raz-de-marée, c'est table rase.
C'est pas réparable, voilà. Donc la décision, c'est de, on efface tout, on recommence. Et donc, on va éradiquer les êtres de cette première création, parce qu'ils sont vraiment trop imparfaits. Donc, pour éradiquer toute une création, il n'y a pas 36 000 solutions. Et effectivement, le déluge, c'est une très bonne solution. Et il y a plusieurs types de déluges, parce que du coup, on peut utiliser un déluge de feu. C'est ce que les mythologues appellent l'ekpyrosis, c'est-à-dire l'embrasement du monde. On met le feu partout, et une fois que tout s'est éteint, on va recommencer à zéro.
On peut faire déborder la mer.
Ou bien par l'eau. Alors, soit par la pluie, soit par une espèce de tsunami, soit par un débordement d'eau terrestre, il y a tout un tas de processus. Mais par l'eau également, on va éliminer tout le monde, et ensuite... parfois en sauvant quelques les rares qui étaient sauvables, considérés comme à peu près acceptables. Et à partir de là, une nouvelle humanité va être créée. C'est ce qu'on appelle un mythe de double création.
Alors là, on a fait allusion à un mythe que l'on connaît bien en Occident. Votre ouvrage montre qu'on va bien au-delà de ces frontières-là et que le mythe se trouve partout. Je vous propose d'écouter l'extrait d'une lecture faite par Shushan Jergaïan.
En haut, Numitarum, dieu unique. En bas, la mer. Et dans un berceau d'argent suspendu au-dessus de l'abîme par une chaîne de fer, un époux et une épouse n'appartenant point à l'humanité. Numitarum a déchaîné les vents, qui soulèvent les flots de la mer et se jouent du berceau, livré à leurs caprices. Aussi, l'un des deux êtres non humains demande-t-il au Père Céleste de créer, pour ses enfants, un morceau de terre, susceptible de porter une maison. Numitarum se rend à ce vœu. L'épouse donne le jour à Elempi, qui croit à vue d'œil. Elempi demande à Numitarum de créer une terre ferme. Le dieu donne alors à Elempi une peau de canard et une peau d'oie, en lui disant de descendre sur le bord de la mer et de faire surgir lui-même la terre sainte destinée à l'homme. Elempi revêt la peau de canard, plonge sous les flots et cherche par trois fois à atteindre le fond de la mer. Trois fois, il est ramené à la surface. Il revêt alors la peau d'oie, et grâce à la vertu de ce talisman, il parvient à détacher du fond de la mer trois poignées de terre qui se transforment en fleuves, en lacs, montagnes et prairies. À la création de la terre ferme succède immédiatement celle des hommes, des quadrupèdes, des oiseaux. Elempi fabrique ces trois sortes d'êtres avec un même mélange de terre et de neige. À peine sortis des mains de leur auteur, les hommes rient et folâtrent, mais ils n'ont rien à manger. Elempi monte vers Numitarum et reçoit de lui trois couples de poissons avec lesquels il peuple les fleuves, les rivières et les lacs.
Alors Jean-Luc Lequelec, là c'est un mythe du peuple de Syrie occidentale, de Sibérie occidentale, pardon, les Mansi, qui est rapporté par le linguiste Lucien Adam dans le 19e siècle. On voit qu'il appartient aux mythes cosmogoniques, donc qui viennent expliquer l'apparition du monde. Ce que l'on retrouve dans cette imagerie-là aussi, c'est l'importance des éléments auxquels vous faisiez allusion. Ici c'est la terre.
Et l'eau.
Et l'eau.
Ça fait partie de ces mythes, le type de ce mythe, puisque bon, on leur donne on les classe pour s'y reconnaître un peu plus facilement, parce que quand c'est une histoire assez longue comme ça, on est pris par l'histoire, on finit par oublier un peu ce qui est central dans l'histoire, ou ça peut passer inaperçu. C'est l'idée que, à l'origine, il n'y a que de l'eau. Et, à l'origine, s'il n'y a que de l'eau, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme animaux? Pas grand-chose, à part des animaux aquatiques, bien entendu, et des oiseaux. Qui vont voler au-dessus de l'eau.
Les oiseaux, de toute façon, on les retrouve beaucoup dans les mythes.
Alors, l'oiseau idéal, si je peux dire, c'est un oiseau aquatique, parce qu'il va pouvoir voler dans l'eau, et il va pouvoir se poser dessus et nager. Et le plus idéal de tous, c'est le plongeon. Celui qui non seulement vole au-dessus de l'eau, mais qui se pose dessus, et qui peut plonger dans l'eau. Et il manque encore la terre. Et donc, ces récits de type plongeon cosmogonique expliquent que le créateur, qui au départ s'est contenté de mettre de l'eau partout, demande à un de ces oiseaux de descendre au fond de l'eau pour remonter un peu du limon primordial qui se trouve tout à fait au fond, le ramener à la surface. Et donc, à ce moment-là, une fois à la surface, il se solidifie. Il s'étend comme une espèce de gelée, qui va comme un blob un peu, il va s'étendre comme une gelée, il va durcir, et c'est le sol sur lequel nous marchons aujourd'hui.
Alors vous faites allusion justement à la structure de la narration. Vous nous racontez au tout début de l'ouvrage, dans l'introduction, cette expérience faite avec des jeunes élèves qui commencent à raconter un mythe, et vous reconnaissez tout de suite parce qu'il appartient à une catégorie MTD 661, ou je ne sais quoi. Point 1, c'est-à-dire qu'on est dans une catégorie de mythes qui existe, qui a été recensée, mais qui a été déclinée selon les cultures dans lesquelles il a migré. Et donc le récit, structurellement le même, est coloré de différentes manières et incarné par différents animaux.
C'est ça, les mythes ne sont pas en nombre infini. On pourrait imaginer, on pourrait penser que tout ça relève de l'imagination et que donc tous les coups sont permis, si je peux dire, et qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut, et que donc les types de mythes pourraient être quasiment infinis. Voilà, si c'est juste un jeu libre de l'imagination. Or, il se trouve que les mythes sont en nombre limité. Chaque type, il y a des folkloristes ou des mythologues qui les ont classés en types, donc c'est ça le chiffre, le numéro auquel vous faites allusion, c'est parce qu'il y a des répertoires, ça permet de s'y retrouver facilement. Donc on va l'appeler MT 2023, bon voilà. Chaque type, en fait, est décliné ensuite selon les peuples, selon l'environnement.
C'est un canevas, en fait. C'est une sorte de canevas.
C'est une trame. C'est une trame narrative, on se souvient de la trame et ensuite on va pouvoir raconter, improviser sur la trame. Un peu comme un musicien de jazz hein, qui a une trame et puis là-dessus on improvise, on a des riffs qui sont tout prêts et on peut y aller. Là c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on peut ajouter, on peut faire durer l'histoire. On peut la raconter de manière à ce qu'elle dure très longtemps, ou bien s'il n'y a pas trop le temps, ou ça dépend des circonstances, on peut la raconter un peu plus rapidement.
Donc la femme trame... oiseau va devenir femme éléphant selon les cultures.
Alors, par exemple, là, typiquement dans l'histoire du mythe du plongeon cosmogonique, il faut plonger donc pour aller chercher au fond un peu de limon qui va devenir la terre. Eh bien, on peut raconter l'histoire comme je viens de le faire. Là, on peut pas faire beaucoup plus court. C'est-à-dire, je dis, voilà, au début, il y a que de l'eau. Faut chercher le limon au fond. Il y a un oiseau plongeur qui descend et qui ramène le limon. L'histoire est terminée. Bon, c'est un peu sec comme histoire et c'est pas passionnant. Enfin, on aime pas trop, on aime bien que les histoires, ça dure un peu. On aime bien qu'il y a des rebondissements. On aime bien qu'il y a un peu de suspense. Et du coup, là, l'astuce, c'est de dire, il y en a un premier. Il y a plusieurs oiseaux qui essayent. Le premier, il rate. Parce que voilà, lui, il est c'est un fier à bras ou un fier à ailes, si je peux dire. Et voilà, c'est un gros oiseau, un fier plongeur, le grand plongeon dans les zones où ça se raconte. Mais il a été trop prétentieux, il n'arrive pas à aller jusqu'au fond. Alors là, du coup, le créateur ensuite demande à un canard plus petit de plonger aussi, et il échoue également. Il va un peu plus loin, mais il échoue. Et il y a ensuite un tout petit oiseau auquel personne n'aurait jamais demandé à rendre ce service, parce que tout le monde pense qu'il est incapable de le faire, tellement il est petit. Et lui se propose pour le faire, il descend et il réussit.
Bon. Ça veut quand même dire, Jean-Luc Lequelec, que le procédé narratif joue un rôle dans la transmission du mythe. C'est-à-dire, plus il est agréable à écouter, plus il tient l'auditeur en haleine, plus il va fonctionner. Or, on se demande comment est-ce que des structures de récits semblables ont pu autant voyager, autant circuler, autant migrer.
Alors, justement, parce que c'est des récits qui fonctionnent bien. La façon dont j'ai raconté l'histoire la seconde fois est quand même bien plus agréable. C'est comme ça commence déjà vraiment à ressembler à une histoire qui vaut le coup d'être racontée. Et on peut prendre plaisir à l'écouter. Si j'avais plus de temps, on pourrait la raconter avec beaucoup plus d'épisodes qui ont tous un sens et qui tous prennent sens et ajoutent à l'histoire. Et c'est ça qui fait que l'histoire, vous savez, moi je crois qu'il y a deux sortes d'histoires. Il y a les histoires que vous oubliez dès qu'on vous les a racontées. Et puis il y a les histoires que vous trouvez tellement géniales que vous n'avez qu'une envie après, c'est de la raconter aussi.
Oui, mais ils n'ont pas la même origine, puisqu'ils sont apparus dans plusieurs endroits du globe en même temps. Donc on ne peut pas dire qu'il y aurait une sorte de matrice commune à tous les mythes de l'humanité et qu'ils auraient ensuite voyagé. Ils sont nés à différents endroits au même moment.
Oui, bien sûr. On peut dire qu'il y a une chronologie de ces histoires-là, en tout cas. Hein.
Comment on pourrait faire le tour de la typologie en gros ? Il y a 4-5 types.
Alors, dans les très grands types, pour le moment, on a évoqué l'apparition de l'homme et l'apparition du monde, du cosmos, tel qu'on le conçoit, du moins à l'époque où ces histoires se racontent. Et donc, on parle de mythes cosmogoniques, qui explique pourquoi il y a un monde, et alors qu'il pourrait très bien ne rien avoir. Anthropogonique, eh bien, sur ce monde, il y a des humains. Bon, comment se fait-il ? Ensuite, il y a des mythes, une fois qu'il y a des humains, on continue, si vous voulez, en zoomant. On part du monde et on zoome de plus en plus. Des humains, ah bon, il y a des humains. Mais alors, je m'aperçois que ces humains sont divisés en diverses classes. Il y a des puissants et des misérables. Ah bon, comment se fait-il ? Eh bien, on a des récits qui sont des récits de type sociogonique, qui vous expliquent qu'il y a des groupes différents avec des luttes de puissance entre groupes. Vous avez des récits ethnogoniques qui vous expliquent qu'il y a plusieurs groupes différents qui parlent des langues différentes. C'est la fameuse tour de Babel, la diversification des langues. Et ainsi de suite, pour chaque type de grand problème, comme ça, vous avez un type de mythe particulier qui ensuite se décline de mille façons.
Alors, à travers l'histoire aussi du mythe que vous nous proposez de retraverser dans ce livre Avant le déluge, il y a aussi la manière dont ces mythes ont été collectés avant d'être étudiés. Alors, vous parlez bien d'une science du mythe, c'est-à-dire qu'ils doivent être étudiés avec minutie, et ils ont été collectés pour la plupart par des voyageurs.
Alors, des
par
voyageurs,
des missionnaires.
Au départ, pour les plus anciens, ils ont été notés, on ne sait pas trop pourquoi, en Égypte ancienne ou en Mésopotamie. Parmi les plus anciens mythes connus, on les trouve dans ces régions-là, puisque l'écriture apparaît notamment dans ces régions, très anciennement. On ne sait pas pourquoi les gens les ont notés, peut-être parce qu'ils ont trouvé que ces histoires étaient sympathiques. C'est peut-être le début du monde des écrivains et des romanciers. C'est une histoire qui me plaît, donc je la note. Voilà. Mais l'immense majorité des bibliothèques mythologiques, elle est constituée des récits de voyageurs qui très souvent ne sont pas partis du tout pour noter des mythes et qui même se sont assez souvent opposés aux mythes. L'exemple type, c'est les missionnaires qui évidemment ne s'intéressaient aux mythes que au mieux pour les utiliser afin de mieux convaincre les peuples chez lesquels ils se rendaient de la fausseté de leurs histoires et de les convaincre que l'histoire qu'on leur apportait en échange était, elle, la vraie. On rejoint ce qui était dit tout à l'heure à propos de la croyance et de l'incroyance et que le mythe, c'est l'histoire véridique des autres. Et moi, je connais l'histoire vraie qui n'est pas un mythe. Donc, on est exactement dans ce cas de figure-là. Évidemment que les missionnaires ont très souvent noté ces mythes, avec à la fois un mélange de répulsion et de fascination.
Et en intervenant eux-mêmes sur ce qu'ils avaient entendu.
Pas toujours. Parfois, il y a tous les cas de figure. Alors c'est pour ça qu'il faut faire. C'est tout un travail d'établissement des textes, en fait, hein, comme un historien. On travaille comme un historien.
Il y a une exégèse des textes.
Voilà.
De mythes.
Il faut essayer de retrouver l'histoire telle qu'elle pouvait être racontée au travers de ce qui en a été noté. Mais il y a des missionnaires qui ont appris la langue des régions qu'ils visitaient de manière parfaite, qui ont fait des dictionnaires, des grammaires, etc., et qui ont fait des éditions de mythes bilingues avec une traduction juxtalinéaire, c'est-à-dire chaque mot est traduit, vous avez des explications grammaticales, etc. Et ensuite, il y a eu des gens qui ont enregistré avec magnétophone, quand il y a eu les magnétophones. Et là, on a toute une série quand même de documents qui sont parfaitement fiables et dans lesquels les gens qui les ont notés interviennent très très peu.
On va écouter une autre lecture de mythe. C'était chez les Chilukos au Soudan du Sud et c'est rapporté par le missionnaire allemand Wilhelm Hofmer.
Le créateur Yuwok a façonné tous les humains à partir de la terre. Et pendant qu'il était occupé à son œuvre, il a erré de par le monde. Au pays des Blancs, il trouva une terre où s'étendait un sable d'un blanc pur et il en fit les Blancs. Puis il vint en Égypte et de la boue du Nil, il fit des Nilotes rouges ou bruns. Enfin, il vint au pays des Chilouks et trouvant là une terre noire, il en fit des noirs. La manière dont il modela les humains fut la suivante. Il prit une motte de terre et se dit « Je vais faire les humains, mais il faut qu'ils puissent marcher, courir, aller dans les champs, alors je leur donnerai deux longues jambes, comme le flamant rose. » Cela fait, il se dit encore « Les humains doivent pouvoir cultiver leur millet, alors je leur donnerai deux bras, l'un pour tenir la houe, l'autre pour arracher les mauvaises herbes. » Il leur donna donc deux bras. Puis il se dit à nouveau « Les humains doivent être capables de voir leur millet, je leur donnerai donc deux yeux. » C'est ce qu'il fit. Ensuite il se dit « Les humains doivent pouvoir manger leur millet, alors je leur donnerai une bouche. » Et il leur donna une bouche en conséquence. Après cela, il pensa en lui-même « Les humains doivent pouvoir danser, parler, chanter et crier, et pour cela ils doivent avoir une langue. » Et il leur donna une langue en conséquence. Enfin, la divinité se dit en elle-même « Les humains doivent pouvoir entendre le son pour la danse et le discours des grands hommes, et pour cela il leur faut deux grandes oreilles. » Il leur donna donc deux oreilles et les envoya dans le monde.
Jean-Loïc Le Callec, alors là on est dans un mythe anthropogonique, si on suit,
oui.
Si on suit votre typologie. Que dire de la manière dont il est rapporté par le missionnaire allemand Wilhelm Hofmer? Est-ce que l'anthropologue doit justement repérer dans le récit sa forme, sa langue, l'authenticité de la manière dont il a été recueilli, l'objectivité?
Alors sur un seul récit, c'est difficile d'établir vraiment l'authenticité et de mesurer l'intervention possible du missionnaire ou de la personne qui a noté l'histoire. Pour ça, il faut voir dans toute la région, est-ce que cette histoire a répandu, est-ce qu'on la retrouve ailleurs, est-ce qu'elle est unique? Et donc ça paraîtrait un petit peu bizarre. Cette histoire n'est pas unique. Elle appartient à un type aussi, alors certes anthropogonique, c'est-à-dire création des humains, mais comment crée-t-on les humains? Il y a plusieurs manières de créer les humains, et donc une des manières, c'est à partir d'argile, en façonnant des petites statuettes d'argile, ce qu'on appelle les mythes de choroplastie. Choroplastie, ça vient c'est un mot grec qui désigne le choroplaste en Grèce ancienne, c'est l'artisan qui fabrique des petites statuettes, notamment de jeunes filles, les chorées. Et donc on appelle choroplaste toutes les divinités qui façonnent les humains à partir d'argile, comme Adam, le Adam qui porte en son nom même le mot qui désigne l'argile, Adam. Ça, c'est un type de mythe qui est tout à fait attesté en beaucoup d'endroits du monde, qui n'est pas universel, mais qui est très largement attesté. Et rien que ça suffit pour montrer que cette histoire n'est pas totalement inventée.
Alors, ce que vous nous racontez dans Avons-nous de l'éluge, c'est que le mythe est l'objet d'une science très précise des anthropologues, et avec très outillé, avec une méthodologie, et qu'en réalité, il ne s'oppose pas du tout à la science. Expliquez-nous ça, Jean-Louis Lequec.
Ça a été une croyance répandue, notamment au XIXe siècle, de penser que grâce au progrès de la science, on se débarrasserait du mythe, et que le mythe allait remplacer la science, que la science allait remplacer le mythe, qui lui-même avait été partiellement remplacé parce que la religion, c'était dans le cadre d'une vision de l'évolution de l'humanité linéaire, qui marche
scientiste.
Vers le progrès, tout à fait scientiste, exactement. Et on s'aperçoit maintenant, et on s'aperçoit tous les jours, que la science n'est pas du tout incompatible avec le mythe. Nous sommes des humains et nous pouvons faire de la science tout en étant porteurs de croyances les plus diverses.
Alors pourquoi ? Parce que le mythe vient offrir des représentations sur des questions insolubles ?
Le mythe ne donne pas une explication, le mythe dévoile une vérité sur le monde, et le mythe ne construit pas cette vérité à partir des observations, des faits qu'on va recueillir, collecter, assembler, analyser, pour essayer de leur donner ensuite une explication. Dans le cas du mythe, l'explication précède la collecte des faits. C'est-à-dire, si on collecte des faits dans le monde du mythe, ça va être pour les illustrer, ça va être pour justifier, pour dire finalement, ah, vous voyez bien que c'est vrai, puisque je vous exhibe tel ou tel fait qui confirme l'histoire. Mais l'histoire est préexistante. Donc c'est quelque chose de très différent. Et on peut dire en gros que la science démontre, travaille par démonstration, et que le mythe, lui, il procède par dévoilement et par monstration. C'est alors, complètement différent.
Pourtant, on trouve une sorte de darwinisme dans les mythes, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui restent et ceux qui disparaissent. Donc il y a comme une capacité à survivre à travers l'histoire.
À survivre et à évoluer. Je dirais, parce que quand on regarde la longue histoire des mythes, on s'aperçoit que certaines histoires qui sont racontées de nos jours encore remontent à des milliers d'années, et que pour qu'elles puissent survivre, il faut qu'elles s'adaptent au monde contemporain, au monde dans lequel elles sont racontées. Donc elles évoluent. Si elles étaient complètement déconnectées du monde, on ne les raconterait plus.
Merci à vous, Jean-Louis Lequec, d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans La Grande Table. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Avons-nous le déluge, et c'est publié aux éditions du Détour. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Gergaillan, à la réalisation Vivian Lecuivre et à la technique Audrey Guélil. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application de Radio France.